France Culture.
Question d'islam par Alain Bensuir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islamophilie du 19e siècle en France, totalement inconnue, méconnue, oblitérée, voire effacée des mémoires. Et heureusement, nous avons Louis Blin qui nous fait rappeler, non seulement avec Victor Hugo, et ça nous en avons parlé il y a quelques émissions de cela, et aujourd'hui, nous parlons davantage d'Alphonse de Lamartine. Louis Blin, bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir une nouvelle fois.
C'est avec grand plaisir. Merci de nous faire l'amitié de venir, de nous donner de votre temps. Alors, vous parlez d'Alphonse de Lamartine comme un passeur d'islam et vous dites que c'est l'anti-Chateaubriand, en quelque sorte.
Voilà, donc Chateaubriand et Lamartine se sont succédés en Orient et en ont une perception totalement opposée. On sait bien que Chateaubriand a fait un rejet de tout ce qu'il a vu là-bas, que ce soit musulman ou chrétien. D'ailleurs, donc c'était pas lié à une religion, mais plutôt à une époque et à une culture. Et par contre, Lamartine, qui partait là-bas avec à peu près les mêmes préjugés, et ses écrits de jeunesse le prouvent, malheureusement, il était à l'époque très anti-ottoman et même se défiait de tout ce qui touchait à l'Orient, y compris la religion musulmane, a complètement changé là-bas. C'était un choc pour lui que de rencontrer les orientaux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, en 1832 et 33, au Liban, en Palestine et en Syrie.
Alors, Louis Blin, vous êtes historien, vous êtes arabisant, vous êtes un ancien diplomate, vous êtes chercheur à l'Institut européen de Florence.
Oui.
Et vous vous intéressez particulièrement à cette période du 19e siècle où, avec des protagonistes de la littérature française et aussi des grands personnages du 19e siècle, au fait que leur perception de l'islam tranche et tranché avec l'héritage du Moyen-Âge, et de nos jours, cette perception est totalement insoupçonnée.
Alors Lamartine, c'était évidemment le grand écrivain que tout le monde connaît grâce à l'étude probable de son fameux poème « Le lac à l'école ». Mais qui sait que Lamartine était aussi un ministre des Affaires étrangères et le premier leader politique de l'ère républicaine française, puisque en fait, c'est lui qui est sorti de la révolution de 1848, qui a mis définitivement fin à la royauté en France, comme chef de l'exécutif. Sa carrière politique a été courte puisqu'il s'est présenté aux élections contre Louis-Napoléon Bonaparte et il est arrivé bon dernier. C'est bien qu'il a mis fin justement à ses illusions politiques de réconciliation. À l'époque, il était en avance sur son époque sans aucun doute et il s'est consacré à la littérature. C'est bien que Lamartine est mort dans l'anonymat le plus complet avec quelques personnes à son enterrement ruinées dans un anonymat qui jusqu'à présent dure encore malheureusement puisque lit Lamartine encore. Alors bon, moi je l'ai lu et je n'ai rien inventé, j'ai simplement ouvert ses œuvres complètes comme je l'avais fait pour Victor Hugo et j'y ai découvert des pages entières, enfin c'est pas seulement un épiphénomène, c'est vraiment central dans son œuvre sur l'islam, donc la religion musulmane. Alors Lamartine se définissait lui-même comme créé religieux, comme l'air a été créé transparent. Donc, c'était pas du tout une fascination pour l'exotique. Il était profondément religieux, il est resté très attaché au catholicisme de son enfance jusqu'à la fin. Et il a simplement découvert qu'il y avait une autre spiritualité qui, loin d'être contradictoire de la sienne, était, à son avis, complémentaire.
Alors, faisons connaissance avec l'homme. Il est né en 1790, un 21 octobre. Mort, vous l'avez si bien dit, dans un quasi-anonymat total, ruiné, un 28 février 1869. Il a vécu dans une sorte de chalet, pas loin de l'actuelle avenue Henri Martin, à Paris. C'est curieux, un homme qui a finalement dirigé la diplomatie française.
Oui, c'est... Effectivement,
parce qu'il était généreux, dit-on, et qu'il a dilapidé en quelque sorte en donnant de ses biens.
Il était généreux et dépensier aussi. Lorsqu'il est allé en Orient, il a mené grand équipage et donc il pensait certainement pas que son vignoble du Mâconnais allait être détruit et qu'il serait ruiné et qu'ensuite donc il ne devrait que ses écrits de pouvoir survivre. Donc il a beaucoup écrit, on lui a reproché, et beaucoup de ses écrits, donc de la seconde partie de sa vie, ont été négligés, y compris donc sa biographie du prophète, et qui est en fait le premier tome d'une histoire de la Turquie, en 8 tomes, qui visait à réhabiliter l'Empire ottoman, qui décriait à son époque. Lui-même l'avait décrié quand il était jeune, puisque il l'avait considéré, comme la plupart des progressistes, entre guillemets, de son époque, qu'il fallait réformer l'Empire ottoman, c'est-à-dire, en fait, le soumettre aux Européens. Mais ensuite, il a bien compris que, d'abord, on ne pouvait pas faire le bonheur des gens malgré eux.
Son hostilité à l'Empire ottoman était accentuée par la fameuse tour des crânes dans la ville de Niš, en Serbie. Et c'est là, l'ayant vu, où il s'écrit... s'adressant aux enfants, aux héritiers, en tout cas serbes, en disant il faut laisser ce monument pour qu'on puisse mesurer l'importance et le prix consenti, le tribut pour la liberté des pères serbes.
C'est ça qui est admirable chez Lamartine, c'est que quand on le lit, on voit à quel point c'est quelqu'un qui accorde toujours la priorité à la spontanéité et chez lui, ça va de soi, à la spiritualité. Et donc, il est rare chez un homme politique de cette envergure d'avoir, noir sur blanc, avoué s'être trompé, puisque quand on est homme politique, généralement, on ne se trompe jamais. Lui, au contraire, après cette jeune période hostile à l'Empire ottoman, écrit, je le cite, quand il est revenu à des sentiments plus amènes vis-à-vis des Orientaux, je le cite, donc, l'administration de l'Orient sera toujours, aux yeux d'un Européen, vicieuse, parce qu'elle ne sera jamais l'administration de l'Europe. C'est tout dire. C'est une phrase anticoloniale, comme il se doit quand on a été Lamartine et observateur des massacres français en Algérie qui l'ont tout à fait horrifié. Donc, dans l'évolution de Lamartine, il y a cette rencontre, cette découverte des Orientaux, et non seulement de l'islam, mais surtout des musulmans. Et il y a aussi donc ce choc de la conquête de l'Algérie. Alors qu'il était tout à fait donc pro-colonial, il faisait partie donc de ces Français qui pensaient que la colonisation était une chose positive, il a bien compris qu'il n'y avait pas de colonisation heureuse. Et si bien que lorsqu'il a critiqué à la Chambre, il était député à l'époque, l'armée française, il a été rejeté, mais c'était un vrai scandale. Donc il était l'objet de polémiques à l'époque. Il était très courageux, à la fois donc politiquement et aussi dans ses écrits, puisque c'est le premier à avoir écrit une biographie du prophète qui ne soit pas à charge.
Oui, et dans laquelle il y a cette fameuse parole qu'on a dû citer quelquefois ici et qui ponctue ou qui finit cette biographie dans laquelle il disait « Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à... » Lui, il disait à Mahomet.
Il était évidemment un admirateur de l'islam et surtout de la tolérance musulmane, ainsi que du côté philosophique de cette religion. Ça, c'était hérité des Lumières. Et puis, surtout, de la prière musulmane. C'était avant tout quelqu'un qui était un contemplatif, et il a considéré que l'islam, sur ce plan-là, était exemplaire. Alors qu'il était parti en Orient avec l'idée de donner des leçons aux musulmans, il a compris, il a écrit par la suite que c'était plutôt aux musulmans de nous donner des leçons à nous, occidentaux, qui avons perdu le sens du sacré et de la spiritualité. Donc pour cela, il a fait du prophète de l'islam un personnage exemplaire. Il a d'ailleurs un petit peu enjolivé les choses dans sa biographie et aussi christianisé le prophète, parce que c'était de bonne guerre, disons, qu'il fallait que son lectorat, qui était évidemment a priori hostile à l'islam, puisse être tout de même initié à quelque chose de différent, avec des critiques, mais très très centré sur l'accessoire. Au contraire, pour tout ce qui est de la religion, de la conduite du prophète, et il l'a montré comme compatible avec ses convictions catholiques. C'est pour ça que je fais de Lamartine, dans mon livre, le premier catholique musulman.
Avant lui, Massignon.
C'est ça. Donc je pense qu'il a ouvert la voie à Victor Hugo, qui était son disciple, entre guillemets, sur la question.
En tout cas, son admirateur.
Oui, mais aussi Alexandre Dumas, qui a résumé la biographie de Lamartine dans un de ses ouvrages, dans un de ses récits. Et puis ensuite, Jules Verne, qui était son directeur de cabinet lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, Arthur Rimbaud, beaucoup d'autres. Donc Lamartine était vraiment un passeur d'islam. Il pensait que, je le cite encore, il n'y avait aucune contradiction. Il écrit, on peut même peut-être évoquer un syncrétisme de Lamartine, puisqu'il écrit « J'adore la prière des chrétiens et des turcs. Allah Karim, Karim voulant dire généreux, bien sûr, c'est ma religion. Soyons turcs, c'est-à-dire bénissons Allah, maître de tout. » Voilà, c'est un catholique fervent qui écrit cela.
Oui, il disait aussi sur un autre plan, lui qui était très touché par la générosité, en tout cas de ses hôtes, parfois simples. Vous dites que Victor Hugo a connu l'islam par la suite. Lui, c'est plutôt ce sont les musulmans qu'il connaissait. Et cette générosité a trouvé un écho dans sa propre générosité et altruisme. Il entretenait ses sœurs alors qu'il n'était pas obligé de le faire.
Oui, tout à fait. Il avait une conception de la religion comme étymologique, quoi, qui relie les hommes. Il pensait que la religion que les religions devaient les unir alors que leur histoire les sépare. Et s'il s'intéresse à l'islam, c'est pas du tout par admiration qu'on qualifierait maintenant d'orientaliste ou d'exotique, c'est parce que c'était avant tout un patriote. Un grand patriote français, c'est pour ça qu'il était candidat au présidentiel, et il pensait que la France avait des racines arabo-musulmanes. Lui-même, d'ailleurs, qui était un gentilhomme bourguignon, écrit vers la fin de sa vie, « Je suis certain que mon vrai nom n'était pas Lamartine, mais Al-Lamartine. » Donc ça peut faire sourire, mais bien sûr, c'était pas un imbécile, donc il savait bien qu'en disant ça, c'était métaphorique. Il pensait que même dans la France plus que profonde, qui était son vignoble mâconnais, eh bien, en fouillant, en creusant, on pouvait trouver de l'islam et de la littérature.
Et son père serait venu plutôt de Bretagne, oui, avant de venir s'installer, voilà, dans le mâconnais.
C'est ça, donc c'est vraiment un français pur jus. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre via Lamartine que quand on est musulman ou quand même s'intéresse à l'islam, on est fidèle à ce que la France a le plus intime dans sa propre culture. Et je vais encore citer Lamartine parce que il est important de voir à quel point sa pensée est actuelle. La France est géographiquement comme moralement un pays de fusion et de contraste dans l'unité. Elle-même n'est plus qu'une grande mêlée de races, de sang, de langues, de mœurs, de législations, de cultes, qui font tout ce qu'elle a de divers dans une lente et laborieuse unité. La diversité est donc le caractère essentiel et fondamental de la France nationale.
Et il poursuit en disant, cette fois-ci en fustigeant les autres nations,
oui,
en disant « c'est la pauvreté des autres races nationales de l'Europe » de n'avoir qu'un caractère national, c'est le génie, c'est l'aptitude, c'est la grandeur, c'est la gloire de la France d'en avoir plusieurs.
Voilà, et ce qui le désole, c'est que ses concitoyens qui le comprennent mal, mais ça va aller de mal en pis ensuite, rejettent cette conception qui pourtant pour lui ressort de l'évidence. Et, alors je vais le citer encore, « Je suis homme avant d'être français, anglais ou russe ». L'égoïsme et la haine ont seule une patrie, la fraternité n'en a pas. Et malheureusement, l'islamophobie qui existait à l'époque comme encore davantage aujourd'hui avait élu dans les foires donc la Turquie comme tête de Turc. Vous savez, la tête de Turc, c'était donc un symbole.
On tapait avec un coup de maillet,
voilà,
sur une tête enturbanée.
C'est ça. Donc c'était au sens propre. Mais bien sûr, c'est maintenant passé au sens figuré. Et donc, le Turc, aux yeux de Lamartine, et puis le musulman en général, puisque Turc voulait dire ottoman à l'époque, devenait un emblème de la discrimination. Hein. Et lui, il était avant tout antiraciste. Alors, c'est Lamartine qui, deux jours après son arrivée donc à la tête de l'exécutif, a définitivement aboli l'esclavage qui avait été rétabli par Napoléon.
Il a signé le décret. Et c'est lui qui disait « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute ».
Exactement.
Sans aimer, sans haïr, les drapeaux différents, etc.
Voilà. Plus une race humaine est vaincue et flétrie, plus elle m'est sacrée et devient ma patrie.
Et partout où l'homme souffre, il me voit dans ses rangs. Ça rappelle Pasteur qui disait « Je ne te demande pas qui tu es, quelle est ta religion, tu souffres et tu m'appartiens, je te soigne ». Il y a eu des grands humanistes, en l'espèce, c'est Lamartine qui... Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans l'émission pour son ouverture à l'islam et aux musulmans, j'ai cité simplement Pasteur pour son altruisme et son ouverture à l'humanité tout entière.
Mais vous avez raison, parce qu'en fait, tous ces gens-là forment une chaîne qui nous amène donc, bien sûr, à la grande conception de la culture française et du message de la France à l'humanité que notre époque porte et qui est bien malmenée par ce qui se passe actuellement. Et je pense que il faudrait revenir aux fondamentaux. Nous sommes infidèles à notre propre culture. Et il est dommage que ceux qui lisent Victor Hugo ou Lamartine aujourd'hui oublient à quel point cette ouverture, donc cette tolérance, comme ils l'appellent, est vraiment le fondement de toutes nos valeurs. Ça ne veut pas dire que son siècle était exemplaire. Lui-même ne l'était pas, puisque on a bien vu qu'au début de sa vie, il avait des préjugés tenaces. Mais si l'on revient donc à son message, je pense que c'est indispensable pour que la crise identitaire et culturelle que vit la France d'aujourd'hui se dissolve dans un effort de rapprochement avec notre alter ego, puisque l'Orient et l'Occident, la France, enfin la chrétienté et l'islam sont les deux faces d'une même pièce à ses yeux. Thank you.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons d'Alphonse de Lamartine comme un passeur d'islam et qui est l'une des figures de cette islamophilie totalement oubliée de la France au XIXe siècle. Et quel contraste avec l'actualité brûlante de nos jours. Nous évoquons cela et nous en parlons avec Louis Blin, ancien diplomate, historien, fin connaisseur de tout ce qui concerne l'islam et l'Arabie, ou la péninsule arabe, arabisant lui-même, et chercheur à l'Institut européen de Florence. Pour cette deuxième partie de l'émission, cher Louis Blin, Alphonse de Lamartine reconnaît que ce sont plutôt ses voyages qui l'avaient transformé de l'intérieur, qui lui ont donné ses convictions politiques, ses convictions philosophiques même. Il disait, je cite de mémoire, qu'on était parti homme et on revient philosophe. C'est par le contact avec les hommes, et notamment les hommes orientaux, qu'il y a eu cette métanoïa, cette conversion, cette transformation intérieure.
Alors, lorsqu'il arrive au Liban, comme...
Oui, il perd sa fille, qui est une tragédie.
C'est ça. Donc, il arrive dans un pays où, bien sûr, il est accueilli avant tout par les catholiques, puisqu'il l'était lui-même, si bien que ce sont les maronites qui l'accueillent. Ensuite, il s'aperçoit que le Liban, puis ensuite les pays voisins, sont des mosaïques confessionnelles, et dans son voyage en Orient, donc il parle aussi des Druzes, toute la société qu'il a rencontré. Et il est stupéfait lorsqu'il visite le Saint-Sépulcre à Jérusalem de constater que les églises chrétiennes s'entre-déchirent pour la garde du Saint-Sépulcre et par impossibilité de se mettre d'accord, en ont confié la clé aux musulmans. C'est pour lui un choc, une découverte, donc, et il dit il écrit à ses lecteurs qu'il faudrait qu'on en prenne de la graine. Il a même une phrase assez amusante lorsqu'il dit, je le cite, les Ottomans, en parlant des Ottomans, c'est le seul peuple tolérant, que les chrétiens s'interrogent et se demandent de bonne foi ce qu'ils auraient fait si les destinées de la guerre leur avaient livré la Mecque et la Kaaba. Voilà, le contraste avec le Saint-Sépulcre. Donc. Alors, ça, c'est la première chose. Seconde chose, c'est le choc, comme pour Victor Hugo, c'est la perte de sa fille. Donc, il voyageait en famille et sa fille, à 10 ans, meurt à Beyrouth. Et il est environné d'une telle sympathie de la part, d'une telle empathie de la part de ces Libanais qu'il connaît pourtant très peu. Hein, c'est quelques semaines après son arrivée, qu'il pense que vraiment, il y a quelque chose qui rapproche les peuples, et c'est avant tout donc la spiritualité, parce qu'on peut donc être musulman et réconforter un catholique, il n'y a rien qui l'empêche. Donc il exhorte ses compatriotes à s'inspirer de cette tolérance religieuse, de cette harmonie donc qu'il a vue. Alors à l'époque, il faut se remettre dans l'époque de Lamartine. La France, avant de partir, il n'avait jamais vu un arabe ni un musulman, parce qu'il n'y en avait pas tout simplement en France. Donc c'est une découverte totale pour lui. Et c'est une ouverture d'esprit pour quelqu'un qui ne parlait pas arabe, bien sûr, et qui savait de l'islam ce que son époque connaissait, et qui était très très succinct. Donc, et il avait une soif d'apprendre, de découverte, qui est extraordinaire et dont, encore une fois, on pourrait s'inspirer aujourd'hui.
Oui, lui-même c'était, et là c'est une question que je vous pose, Louis Blin, du Coran pour sa poésie, et pourtant c'était un Coran traduit. Alors on dit que c'était plutôt la traduction de Savary,
oui.
Et les quelques assonances, ou les rimes, ou la manière de rendre d'une manière rythmée cette traduction l'avait inspiré dans son contenu pour sa poésie, dont il disait que c'est la raison qui chante, la raison mélodieuse.
Oui, il a moins écrit de poésie inspirée de l'islam que Victor Hugo, qui lui était vraiment un mystique passionné. Lamartine, c'était plutôt le sacré qui l'attirait. Et il a tout de même composé un recueil intitulé La chute d'un ange qui a inspiré la légende des siècles de Hugo, qui est en fait une transcription de cette tolérance qu'il a constatée au Proche-Orient et dans lequel il met en scène un prophète qui ressemble comme deux gouttes d'eau au prophète de l'islam. C'était un militant de la coexistence. Donc plutôt que pratiquer la métaphore comme Hugo, avec d'une manière admirable, hein, chez Hugo évidemment, notamment dans son fameux poème L'enœuf de l'égir, lui il a essayé d'être pédagogue. Dans sa biographie du prophète, il a essayé de se mettre au niveau de son lecteur pour lui expliquer que ces Ottomans-là, et ces musulmans en particulier, c'était pas ce que le Moyen-Âge en avait fait. Il y avait une réalité avec laquelle il s'était confronté et qui est en fait une réalité de coexistence pacifique. Et il écrit que l'islam et les musulmans sont, je vais encore le citer, le mahométisme, comme il l'écrit à l'époque, a l'habitude de vivre en paix et en harmonie avec les cultes chrétiens. On peut, dans la civilisation européenne, lui laisser sa place à la mosquée et sa place à l'ombre ou au soleil. Quelle leçon pour aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Et il commence cette partie-là en disant que le mahométisme, ça serait peut-être même une des définitions de l'islam applicable aujourd'hui, peut entrer sans effort et sans peine dans un système de liberté religieuse et civile.
C'est ça, formidable.
À l'évocation de Victor Hugo, Louis Blin, il y a, nous avions parlé, nous avait fait savoir, si je puis dire, et si tant est que les mots aient aussi leur sens pour l'époque, l'islamophobie d'un Chateaubriand et plus tard d'un Ernest Renan. Il y avait aussi de son vivant et ses contemporains, quelqu'un comme Alexis de Tocqueville, qui n'était pas amène à son égard, alors que Victor Hugo, qui était très admiratif, disait qu'il était noble, tranquille, généreux, tout entier au pays, poussant le patriotisme jusqu'au dévouement et le dévouement jusqu'à l'abnégation. C'est l'idée qu'il donnait, pourtant il avait quelques détracteurs et il avait aussi quelques laudateurs.
Oui, alors parmi ces détracteurs, il y avait tous les catholiques traditionnalistes qui comprenaient pas que quelqu'un qui se proclamait et se revendiquait catholique jusqu'au bout de sa vie puisse être en même temps donc un admirateur de l'islam. Et il y a aussi tous ceux qui considéraient que il s'était fourvoyé en faisant de la question d'Orient. Vous savez, la question d'Orient, en fait, c'est l'histoire du dépeçage de l'Empire ottoman. Donc, en faisant de la question d'Orient, justement, le contre-exemple total. Donc, en fait, bien sûr, il allait à l'encontre non seulement de la pensée majoritaire chez les laïcs, qui étaient que, bien sûr, fervent colonisateur, mais aussi donc de l'Église et des catholiques de son époque. On comprend donc son relatif isolement dans la France de son époque, ce qui ne l'a pas empêché ensuite d'être, à mon avis, l'inspirateur donc de tout ce que la culture française a du 19e siècle et même du début du 20e siècle a de plus attaché à la coexistence. Mais ce qui m'importe, et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai écrit ce livre, c'est notre époque et sa réception à notre époque. Et c'est là-dessus que, je crois, mon lectorat a, jusqu'à présent, donc le mieux réagi. Alors, j'écrivais ce livre comme celui sur Hugo pour essayer de convaincre les Gaulois, entre guillemets, de reconsidérer leur culture et de revoir donc quelles étaient ses racines au XIXe siècle, donc de tolérance vis-à-vis de l'islam. C'est un échec complet, puisque je ne peux pas dire qu'il a été boycotté, mais certainement marginalisé d'un ce point de vue-là.
Vous pensez qu'à cause de la dénomination du vocable islam dans le titre de l'ouvrage?
Oui, tout simplement. Donc, mettre islam à côté de gloire nationale, panthéonisée comme Dumas et Victor Hugo, ou bien adoré comme Lamartine, c'est pour eux, bien sûr, de la provocation. Mais Lamartine lui-même était un provocateur, sans aucun doute. Il faut s'étonner de rien. Mais enfin, je pense qu'après plus d'un siècle de lecture, parce que les Français de l'époque aient rejeté cette vision donc œcuménique de Lamartine, on peut peut-être le comprendre, parce que l'islam est tout de même très méconnu. Tandis que maintenant, on a tout pour bien connaître, pour bien savoir. Et bien, malgré cela, les choses se sont aggravées.
Oui. Pour l'époque aussi, ne serait-ce que sur un plan purement stratégique et de confrontation en Europe, lors de la guerre de Crimée, il y avait le fait d'avoir battu Monet avec cette médaille sur laquelle il y a Napoléon III
oui.
Au centre, la reine Victoria d'un côté et le sultan Abdelmajid Ier de l'autre.
Voilà, alors, bien sûr, Lamartine essayait de se greffer sur l'actualité pour convaincre son lectorat. La guerre de Crimée a vu, dans le contexte général de cette question d'Orient dont je parlais tout à l'heure, une alliance inédite entre les trois pays que vous venez de citer et que la propagande, disons, officielle, avec cette médaille, a promu en disant que c'était l'alliance du catholicisme français, protestantisme britannique et islam ottoman contre l'orthodoxie russe. Donc c'est extraordinaire parce que on voit bien que la dichotomie islam-christianisme ne fonctionne plus du tout en politique. Donc il a essayé de surfer, comme on dirait maintenant, sur cette vague, mais ça n'a pas duré longtemps puisque cette guerre de Crimée, après 3 ans de massacres terribles, a été vite oubliée et qu'on en est revenu à la réalité, qui est en fait que si l'Angleterre et la France étaient alliées aux Ottomans contre la Russie, c'était pour l'empêcher de mettre sa mainmise sur l'Empire ottoman pour le faire à la place des Russes.
Huyblin, vous vous étonnez, comment se fait-il que, à supposer qu'il faille nécessairement se référer à la page Wikipédia, qui serait la référence pour une sorte de culture moyenne, qu'il n'y a aucune mention dans celle qui est consacrée à Alphonse de Lamartine pour son inclination à l'islam ou ne serait-ce que sa biographie du prophète.
Voilà, c'est triste de le dire, mais notre époque est frappée d'amnésie. Et il est important pour le français musulman moyen d'aujourd'hui, d'origine arabe ou non, savoir que parmi les grandes références de la culture française, et lorsque je cite Hugo, Dumas et Lamartine, excusez-moi du peu, il y a un patrimoine commun qui est un patrimoine dont ils peuvent se revendiquer eux-mêmes.
On pourrait, à ce que vous avez cité, ajouter à Edgar Quinet, Auguste Comte,
Rimbaud,
Édouard de la Boulay, un peu moins connu, oui. Mais un peu, Jules Verne, vous l'avez évoqué du fait même d'avoir été directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, donc Alphonse de Lamartine, Stéphane Mallarmé.
Bien sûr.
Et on peut en rajouter d'autres, bien entendu.
Beaucoup d'autres. Donc, lorsqu'on est français musulman aujourd'hui et qu'on est confronté à quelqu'un qui vous dit « Oui, oui, mais l'islam et la République, ça marche pas », eh bien, il est important de pouvoir sortir de son jeu des atouts tels que Hugo Lamartine. Hugo, c'est comme le 21 au tarot. C'est imbattable.
Et quand on a derrière, tout mettre.
C'est la tout mettre. Quand on a derrière le 20 qui s'appelle Lamartine, le 19 Alexandre Dumas, eh bien là, le critique, celui qui refuse que l'islam puisse être quelque chose qui a d'une manière ou d'une autre trait à notre culture avec un grand C.
Enfin, eh bien, la fameuse incompatibilité irréductible avec les valeurs de la République,
voilà. Etc. Et c'est là qu'on voit que ce qu'on appelle la question musulmane n'est pas un problème musulman. C'est un problème de non-musulmans. Donc, il faut que la crise identitaire française actuelle se résolve non pas avec des inventions, mais avec un retour aux fondamentaux. Et nos fondamentaux, c'est Lamartine, c'est Hugo. Et il suffit de les lire. Moi, je n'ai rien inventé. J'ai simplement ouvert leurs œuvres et relevé ce que l'on a oublié.
Elle est aussi une affaire de musulmans, et notamment les musulmans lettrés qui vous lisent et qui eux-mêmes découvrent, et je parle des citoyens français, dont le patrimoine culturel est celui de leur pays, la France, et qu'ils découvrent que cette hostilité quasi systématique à leur propre tradition religieuse ne le fut pas au XIXe siècle.
Voilà, alors donc
par tous en tout cas.
Oui, bien sûr. La grande différence, c'est que l'islamophobie est ancienne et je pense qu'on a un peu fini de l'avoir. Mais à l'époque, au XIXe siècle, on pouvait être célébré comme Hugo ou Lamartine et en même temps islamophile. Actuellement, c'est plus difficile. On n'imagine pas un ministre des Affaires étrangères actuel écrire une biographie du prophète. Donc, il est important de voir que cette islamophilie, maintenant, est dans le creux de la vague. Malheureusement, le grand public est tout à fait islamophobe. Mais si on est au creux de la vague, c'est qu'ensuite, ça remontera. Ou bien la France n'est plus la France.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de l'islamophilie, particulièrement de celle d'Alphonse de Lamartine, mais de ce courant de pensée, ce courant romantique du 19e siècle avec Louis Blin, ancien diplomate, arabisant, historien, auteur de nombreux ouvrages consacrés à cette question, à la question d'Orient, comme on le disait, une question épineuse de nos jours, devenue comme telle avec le qualificatif question d'islam, si je puis dire, sans le S d'ailleurs, parce que pour l'émission, c'est au pluriel. Et vous êtes aussi, Louis Blin, chercheur à l'Institut européen de Florence. Pour cette dernière partie, pourrions-nous dire qu'avec Alphonse de Lamartine, le prophète de l'islam, Mohammed est un héros romantique?
Oui, Lamartine est bien sûr le chef de file du romantisme. Et s'il a fait du prophète un exemple, c'est que c'était un héros romantique, mais pas seulement, puisque dans le romantisme, il y a bien sûr tout de même une certaine spiritualité. Mais pour Lamartine, il y a surtout la sacralité. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle Lamartine est passé de mode actuellement, c'est que notre époque ne se caractérise pas seulement par l'islamophobie, mais par le rejet de la religion en général et de la sacralité en particulier.
Et une certaine indigence ou déshérence culturelle, on lit peu, c'est romantique. Pardon, je vous ai interrompu. Et pourtant, un Maxime Rodinson, un siècle plus tard, reprend, à propos des qualités réelles ou attribuées aux prophètes, au prophète de l'islam, Maxime Rodinson dit qu'il était intelligent, mesuré, équilibré, très réaliste, doté d'un tempérament nerveux, certes, passionné, fiévreux, plein d'aspirations ardentes.
Oui, chez Lamartine, comme chez Rodinson, on a un accent mis sur l'humanité du personnage. Et c'est ça qui importe, parce que le prophète Mohammed, appelé Mahomet donc depuis le Moyen-Âge en France, était un personnage célèbre. Il a toujours été très célèbre, mais plus, comme repoussoir plutôt qu'autre chose. Donc on a fini par en faire un personnage sorti du temps et de l'entendement commun. Donc le travail de Lamartine, poursuivi ensuite par Rodinson, d'une manière tout à fait exemplaire, c'est de restituer à ce personnage son côté humain. Il n'y a pas dans la tradition musulmane de sanctification du prophète et qui n'a pas, comme le Christ, réalisé de miracles dans la biographie de Lamartine, on le voit très bien. Et ceci pour rapprocher le prophète et, par conséquent, ceux qui le suivent, à savoir les musulmans, de l'homme du commun occidental. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes dans la même famille.
Oui, alors il louait, je parle cette fois-ci d'Alphonse de Lamartine et non plus de Maxime Rodinson, son courage, sa détermination, son équité, le sens de la justice,
oui,
chez le prophète de l'islam, sa sincérité.
Oui.
Donc il était en train d'abattre un à un tous les préjugés, tous les poncifs, tous les lieux communs, tous les stéréotypes qui collaient au personnage. Certes, c'est un héritage du Moyen-Âge, mais en tout cas, lui, il s'est employé à les déconstruire un à un.
Voilà, et c'est là qu'il est encore une fois d'une actualité brûlante, parce que nous en sommes toujours là, malheureusement, pour le français, disons, islamophobe de moyen, tous ces préjugés remontent, et donc il faudrait que cette pédagogie soit de nouveau mise en place. Enfin, pour la coexistence et donc l'acceptation de l'autre dans notre pays, il y a beaucoup de méthodes possibles, mais je crois que la culture est la voie royale. Donc si on a une France déculturée et qui ensuite tombe dans la déshumanisation, parce que si on n'a plus de culture, bien sûr, l'autre est déshumanisé, et désacralisé, et ça débouche sur la violence et même le génocide actuel, comme on le voit, eh bien, on ne s'en sortira jamais. Donc il faut revenir aux fondamentaux culturels, donc la culture de notre France d'aujourd'hui, c'est une culture multiple et qui a en partie des racines arabes et musulmanes. Pourquoi le refuser, le récuser, alors que Lamartine et beaucoup d'autres l'ont démontré? C'est un refus de réalité. Et du coup, si on se refuse soi-même, on ne peut pas se respecter soi-même, et sans respect de soi-même, on ne peut pas respecter l'autre.
Bien. Alors j'ajoute dans cette panoplie de qualités mises en avant par Lamartine du prophète de l'islam, il ajoute la douceur, la patience et la piété, et il rapporte, bon, il se fonde certes sur la Sira, je le dis pour nos amis auditeurs, étant cette biographie, cette hagiographie, parfois c'est une légende dorée, mais il s'y fonde, s'en prendra tout à son compte, et il parle de cette affection qu'il a pour les enfants, pour son fils adoptif, et surtout sa patience réelle. Et je pense, en cette année de 10e anniversaire où l'on commémore les attentats contre la rédaction de Charlie, de l'Hypercacher, que si les frères Kouachi avaient lu, avaient connu cette patience, cette douceur, Et cette magnanimité, ils n'auraient pas voulu venger l'honneur de leur prophète en agissant de la sorte. Donc la question de la culture est fondamentale pour tout le monde.
Voilà, ça peut paraître caricatural, mais il faut avant tout reconnaître que les musulmans ont une culture. Parce qu'on leur dénie que cette culture soit en partie musulmane. Hein. C'est un peu... Bon, ça, c'est le laïcisme extrémiste qui le fait. Mais en tout cas, donc, il y a une culture musulmane qui est faite donc, de ce fond du prophète que Lamartine décrit. Alors, on pourrait critiquer ce livre avec donc je consacre à peu près la moitié de mon livre à la biographie du prophète par Lamartine, en disant tout ça est dépassé, parce qu'évidemment depuis Lamartine beaucoup d'autres biographies beaucoup plus précises et exactes du prophète sont parues, mais il importe de le connaître, parce que qui pourrait prétendre connaître la société française d'aujourd'hui sans savoir qui est Saint-Paul ou Saint-Pierre. Eh bien, quel est le français, même cultivé, qui aujourd'hui saurait qui est Abou Bakr ou bien Aïcha? Il faut absolument, pour vivre tout simplement à côté de son voisin musulman, savoir qu'il a aussi une culture profonde et une culture donc de tolérance à l'image de celle que le prophète avait mise en œuvre de son vivant pour que...
Y compris, pardon, je vous interromps, y compris vis-à-vis des animaux, puisque Lamartine parle du comportement du prophète vis-à-vis de sa mule, de sa chamelle, de son âne et même de sa chatte Moïsa,
voilà,
dont il connaît le nom, bien sûr rapporté toujours par cette biographie dont nous parlions tout à l'heure.
Et cela confère au personnage toute son humanité. Il y a une chose que Lamartine ne supportait pas, il l'écrit, c'est la polygamie du prophète. Bien sûr, dans la France de son époque, c'était quelque chose d'absolument fondamental. Et lui-même était très fidèle à sa femme, qui d'ailleurs a beaucoup contribué à son œuvre. Donc ça, il ne le
avant
supporte pas.
Avant de connaître Madame Charles, qui est morte de tuberculose,
bien après,
après ces histoires du lac du Bourget.
Oui, voilà, c'est ça. C'était un amour de jeunesse. Donc là, Lamartine critique. Donc on peut pas dire non plus qu'il sanctifie le prophète, puisque comme il l'humanise, il se permet de le critiquer. Par contre, il met l'accent sur la façon dont le prophète avait au quotidien une relation d'affection et même une relation donc de respect pour ses femmes. D'abord Khadija avant tout, bien sûr, sa première femme, mais aussi avec
Aïcha. Laquelle curieusement il était monogame, ce qui tranchait avec la tradition dans la péninsule arabique à ce moment-là.
C'est ça, donc il met ça en exergue. Bon, il suffit de voir la façon dont il se comportait jusqu'à la fin. Donc, dans le récit d'ailleurs par Victor Hugo de la fin du prophète, des derniers moments du prophète, on voit quelle est la place de Aïcha.
Alors, poursuivons, peut-être encore un mot sur ses qualités, celle de l'humilité. Il était frappé par l'humilité du prophète de l'islam.
Voilà, et donc pour prendre le contre-pied de l'image belliqueuse que ses contemporains avaient du prophète, il montre bien qu'en fait, dans tous les combats qu'il a dû mener contre les Mécois, puisque c'était aussi un chef politique, il n'a jamais combattu, il a seulement une fois et manier la lance et il était blessé, mais en gros c'était un chef politique mais pas vraiment un chef de guerre, dit Lamartine. Et ceci est vraiment pour le lecteur contemporain, mais même d'ailleurs jusqu'à nos jours, une véritable provocation, parce qu'on a une image de l'islam tout à fait belliqueuse, alors qu'au contraire il était non seulement un, mais aussi diplomate, hein, puisque s'il a réussi à se concilier les Mécois, c'est par diplomatie davantage que par la violence.
Oui. Mais alors d'aucuns pourraient dire oui, mais il y a une certaine naïveté chez Lamartine et que il est le dévot. Alors mutatis mutandis, et même si le mot nous l'avons fustigé dans cette émission sur l'islamo-gauchisme qui n'a pas de sens scientifique et qui nécessite d'ailleurs davantage d'émissions. Parce qu'il y a des coups de force sémantiques, comme on dit, mais il serait l'équivalent d'un islamo-gauchiste.
Oui, je pense que, sans aucun doute, Lamartine, mais aussi Hugo ou bien Jules Verne, sont tous des islamo-gauchistes, dans la définition de notre époque. C'est pourquoi ceux qui lisent mon livre actuellement sont tous, enfin ou presque, des gens qui échappent à ce syndrome, hein, puisque c'est un syndrome davantage que une réalité. Les propos que tient Lamartine sur le prophète enjolivent peut-être la réalité, mais après, encore une fois, il fait œuvre pédagogique, si bien que il était indispensable pour essayer de rétablir donc la balance, que on puisse avoir sortir donc d'une biographie telle que celle qu'il avait écrite avec un a priori positif. Alors, Lamartine, d'ailleurs, ne prétend pas avoir fait le tour du sujet, puisqu'il ne se présente pas comme un historien ni un islamologue, c'était anachronique à l'époque, en tout cas certainement pas un orientaliste, puisqu'il ne connaissait pas l'arabe. Mais il présente une version littéraire d'acceptation de l'autre par le biais de la biographie du prophète, et je crois qu'on ne peut que l'en féliciter, parce qu'on en a bien besoin.
Merci infiniment, merci cher Louis Blin d'être venu nous parler de ce représentant de ce qu'on appellerait l'orientalisme, le romantisme islamisant. Et chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam et nous avons parlé d'Alphonse de Lamartine comme passeur d'Islam. Aujourd'hui, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est Stéphane Desmonts. Et la réalisation est assurée aujourd'hui par notre ami François Connac.